C'est une joie en tout cas pour nous d'avoir Philippe aujourd'hui. Il est là avec toute la famille, avec Madeleine, son épouse, et Judith Erna, leur fille. Tout à fait. Alors Philippe, j'essaie de réfléchir tout à l'heure en fait en priant le matin, mais ça fait finalement presque 20 ans qu'on se connaît.
Ah, déjà.
Ça fait 20 ans en fait, ça fait au moins 20 ans qu'il est pasteur, donc c'est un pasteur en quelque sorte expérimenté, et on est en tout cas vraiment heureux. Et alors peut-être pour te connaître un peu mieux Philippe, alors je me souviens seulement de cette anecdote en fait, que tu as voulu être prêtre avant finalement de choisir l'autre voie. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu changes un petit peu d'orientation de cette manière ?
Tout à fait. Quelle idée de vouloir devenir prêtre. Bien vu. Qui a changé les plans ? Non, heureusement qu'il y a eu bien plus. Alors, c'était pas du tout un désir personnel. Hein. À partir de l'âge de 13 ans, donc vraiment brièvement, à 13 ans, je ressens comme le désir de servir Dieu en tant que prêtre. À l'époque, j'étais dans une église catholique. Donc pour moi, logiquement, servir Dieu, c'était être prêtre. Et c'était le servir toute ma vie. Et à cette époque-là, j'avais d'autres plans pour ma vie. C'était devenir banquier. Alors, ce désir qui vient dans mon cœur, non, ça, c'est pas de moi. Dieu, je ne veux pas vous servir. Et à l'âge de 13 ans, pendant 6 mois, je vous assure, c'était des nuits avec la sueur. Je combattais contre ce désir intérieur que Dieu avait planté dans mon cœur. J'étais même pas encore né de nouveau. 6 mois après, un calme dit... Ah, chouette, je vais devenir banquier. Fini, prêtre. Mais comme Dieu n'oublie jamais son appel, il revient 3 ans plus tard, j'avais 16 ans, et là, je finis par capituler. Je dis, ok, maintenant, je vais te suivre. Et puis le Seigneur met sur ma route un jeune évangélique, ce n'est pas toi. Non. Qui me parle de Jésus, je dis, mais c'est ce qu'il me faut. Et finalement, en peu de mois, je donne ma vie à Jésus-Christ, et puis donc je me forme ensuite pour le pastorat jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ouais.
Amen. Et j'imagine que tu ne regrettes pas cette...
Oh non, et puis ma sœur, bien sûr, Madeleine est venue, mon épouse.
Amen.
Donc, pour la suite...
Elle ne travaille pas à la banque, mais elle apporte bien d'autres choses qui comblent en effet la vie. Alors, je vais pas trop tirer, je vais simplement prier pour qu'on puisse écouter la parole. Et puis, bien entendu, après le culte, Philippe sera là pour, si vous voulez, lui poser d'autres questions. Prions ensemble, simplement. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, te louer, te remercier pour cette vie que nous avons en toi. Surtout, cette vie tout simplement que nous avons, parce que c'est toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être, comme dit Paul en acte 17. Et nous voulons te demander de nous aider à bien utiliser cette vie-là. Et en particulier, nous voulons te demander maintenant d'ouvrir nos oreilles spirituelles, nos cœurs spirituels, pour que nous puissions écouter ta voix au travers de ton serviteur Philippe, et que nous puissions mettre en pratique ce que tu va nous dire, parce que ce sont des paroles de vie qui viennent de ta parole. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Charles. La parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Vous m'entendez assez bien ? Oui. Néhémie au chapitre 2. Alors peut-être encore un mot de présentation. Donc, nous venons d'arriver avec mon épouse et notre fille Judith dans la région Hauts-de-France, donc le Nord, depuis bientôt 3 ans. Donc nous sommes dans la ville de Roubaix, donc pasteur de l'église baptiste de Roubaix. Et auparavant, nous étions dans la région de Lyon, donc tout en bas. Il paraît que c'est le sud, mais pour nous qui étions à Lyon, le sud c'est Marseille. Mais c'est sûr que quand on est dans le Nord, le sud, c'est, ça peut être au milieu. Et effectivement, le Seigneur, comme vous l'avez entendu, il a vraiment planté dans mon cœur ce désir d'être à lui pleinement. Et c'est toujours une joie de voir ce qu'il accomplit dans la vie des uns et des autres. Et vous savez que dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait placé pour Israël différents temps importants, les fêtes. Et Israël donc fêtait, célébrait le Seigneur. Et puis, dans la nouvelle alliance, pleinement révélée en Jésus-Christ, accomplie par lui, il n'y a plus une fête qui soit plus grande que l'autre. Il n'y a plus un jour qui soit plus important que l'autre. Chaque jour est important. Et pour le chrétien, pour les chrétiens que nous sommes, Jésus est pleinement présent. Et je me souviens de cette histoire, une sœur qui se lève le matin et elle voyait sa journée qui serait vraiment lourde, 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 lourde. Et dit, Seigneur, s'il te plaît, en cette journée, peux-tu vraiment être à côté de moi, parce que j'aurais besoin de ton soutien. Et puis, elle sort de chez elle, elle entre dans le bus pour aller à son travail, et puis elle s'assied du côté de la fenêtre, donc une place à deux places. Et le monde, le matin, commence à venir dans le bus. Et puis, cette fameuse place à côté d'elle, elle reste vide. Et au moment où une personne âgée qui se tenait debout à côté d'elle, puis la place qui restait vide. Et finalement, la dame chrétienne polie, madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous voyez bien que la place est libre. Et la personne âgée dit, vous voulez que je m'assieds où? C'est occupé par ce monsieur. Elle dit, mais quel monsieur? La place est vide. Et elle s'est souvenue de la prière qu'elle venait de prononcer chez elle. Seigneur, d'accord, par cette femme, tu me montres que tu es réellement présent tous les jours. Tous les jours. Alors, il faut que je me tourne aussi ici. Tous les jours. Tous les jours. Alors, dans cette salle, il est où? À côté d'une place vide, bien sûr que non. Pour cette sœur, oui, il a fallu qu'elle le comprenne. Le Seigneur, il est partout et il est dans nos cœurs. Et c'est une promesse qui est véritable. On peut vraiment compter sur la présence du Seigneur parce qu'il est la parole incarnée. Parole que je vais annoncer pendant quelques minutes ce matin. Ou dirais-je mieux, parole que je vais continuer d'annoncer, puisque le groupe de louanges, donc il a déjà annoncé la parole de Dieu. Nos prières ont déjà annoncé la parole de Dieu. Donc là, je ne fais qu'apporter une nouvelle touche. Merci beaucoup à l'équipe d'anciens et au pasteur donc Charles qui m'ont invité pour apporter la parole de Dieu ce matin. Néhémie, chapitre 2. et nous prendrons les versets 1 à 6. Je vais lire dans la version du semeur. Durant le mois de Nisan, c'est-à-dire mars-avril, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis, « Que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ?» Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, « Si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Nous sommes parfois profondément touchés par la situation précaire d'une personne, d'une situation difficile par laquelle elle passe, mais sans savoir comment lui venir en aide. Par où commencer ? Comment vais-je bien faire ? Mon aide sera-t-elle bien perçue ou alors déplacée ? Est-ce que c'est le bon moment de l'aider ? Et pourra peut-être trouver une solution d'elle-même. Toutes ces questions, on se les pose consciemment ou inconsciemment. En nous appuyant sur le ministère de Néhémie, on va voir que quand on veut secourir, il faut d'abord s'organiser. Vous avez peut-être entendu toutes et tous, au niveau des médias, ce grand feu qu'il y a eu en Australie, ce méga incendie, ce méga feu. Alors heureusement que maintenant les foyers sont en train d'être éteints, il y a eu la pluie qui est tombée, et du coup c'est quoi ? C'est l'inondation qui est venue. J'ai entendu à la radio que les Australiens avaient accepté l'aide de plusieurs autres pompiers au plus fort de ces feux, et notamment le secours de pompiers français. Je dis, ah bon, avec des milliers de kilomètres, les pompiers français, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont apporter des camions remplis d'eau ? Est-ce que l'eau française est beaucoup plus puissante que l'eau australienne ? Et puis non, pas du tout. Aucun camion, aucun matériel n'était envoyé. Mais en fait, les Australiens ont accepté que les pompiers français envoient des experts. Pourquoi des experts ? Parce qu'au niveau matériel, ils ont tout, les Australiens. Ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ils ont les moyens financiers. Mais ils avaient épuisé tous les moyens, toutes les techniques possibles qu'ils connaissaient pour éteindre des feux, ces méga-feux. Et maintenant, ils avaient besoin d'autres techniques, d'autres experts avec d'autres moyens pour éteindre les feux. Et ce pourquoi, humblement, ces quelques experts sont allés en Australie pour apporter leur savoir, secourir. Donc, de quelle aide? De quelle aide? Est-ce qu'ils vont remplir des cargos, des bateaux, de camions? Non, juste des êtres humains, avec leurs connaissances, leurs idées, leurs pratiques. Donc, c'est ce que Néhémie va nous apprendre. On va prendre quelques instants pour voir cela. Première chose, le premier point. Néhémie va prendre des nouvelles. Il prend des nouvelles de ses frères. Néhémie. Que signifie Néhémie? Néhémie signifie l'Éternel console. L'Éternel console. Et tout le livre de Néhémie est là, c'est une consolation pour une partie d'Israël qui est restée à Jérusalem. Il porte bien son nom, Néhémie. La consolation, apporter la consolation à l'autre. Est-ce que ce matin, tu connais la signification de ton prénom? Alors moi, c'est Philippe, hein, ami des chevaux, du cheval, qui aime le cheval. Qu'est-ce qu'il y a comme Charles? Tu connais la signification de ton prénom? Non? Qui connaît? Maria est là, Maria, tu es là. Ton prénom, signification. Ah, c'est toi, hein, qui porte ton prénom. Donc tu vas chercher? J'ai entendu des prénoms. Emmanuel, c'est Manu. Voilà. C'est facile. Dieu avec nous. Romain n'est pas là. Tout à l'heure, j'ai rencontré. Le batteur, c'est quoi ton prénom? Mathias, c'est quoi alors? Tu connais ce que signifie ton prénom? Don de Dieu, Mathieu, Mathias. Sarah, princesse. Ah! Majesté, majesté. Quel autre prénom? Le frère Jean. Frère Jean. Voilà. Travail de recherche. Voilà. Qui d'autre? Un prénom. Signification du prénom. Néhémie n'avait pas spécialement prévu ce qui allait lui arriver, bien qu'il portait ce beau prénom de la consolation. Pourquoi? Parce qu'on lit dans Néhémie, chapitre 1, verset 11, juste la fin de ce verset, la fin. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Il avait un travail, son métier, entre guillemets, métier, était de s'assurer que ce que l'empereur buvait n'avait pas été empoisonné. Il devait goûter toutes les boissons de l'empereur avant. Quel métier dangereux! Mais lucratif, il avait une bonne paye. Le contexte est important, chers frères et sœurs. Nous sommes en 446 avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et Néhémie est l'un des Juifs nombreux qui est né en captivité hors de la terre d'Israël. Et à cette époque-là, la puissance, la première puissance militaire mondiale, ce n'est pas les États-Unis, non, c'est l'Empire perse qui vient de remplacer quelques 90 ans et plus un autre empire babylonien en 539. Et donc l'Empire perse règne. Et ce Néhémie est né hors d'Israël. Il n'a jamais mis pied en Israël. Il ne connaît pas. Et ce pourquoi il sert l'empereur. Il a été repéré comme jeune homme ayant des compétences. Et depuis près de 90 ans, l'Empire perse accorde le droit à tous les exilés de tous les peuples de retourner dans leur pays respectif afin d'y restaurer les temples dédiés à leur Dieu. Et les Juifs profitent donc de cette nouvelle politique. Voici le contexte. Voici le contexte. Et c'est ainsi que Néhémie interroge une poignée de ses frères, compatriotes, qui, eux, ont donc quitté la capitale, donc Suse, pour aller en Israël, Jérusalem, et ils reviennent. Et Néhémie prend de leurs nouvelles, il prend de leurs nouvelles. Alors, comment va le pays ? Qui est originaire d'un autre pays que la Belgique ? Maria, Charles. Allez, le premier. Ma sœur, de quel pays êtes-vous ? Oui ? D'accord. Française de loin, tout au sud ? D'accord. Je suis sûr que de temps à autre. 08. D'accord. Je suis sûr que de temps à autre, vous tendez l'oreille. Qu'est-ce qui se passe dans les Ardennes ? De temps à autre, voilà. Quelles sont les nouvelles qui viennent ? D'où je suis originaire. Néhémie, il fait ça tout naturellement. Qu'est-ce qui se passe au pays ? Tout simplement. Et on lui dit, la situation va mal. Tu te rends compte depuis 90 ans où la nouvelle politique nous a permis de retourner au pays, de reconstruire nos lieux de culte, notre lieu de culte, Jérusalem. Le temple, Esdras lui est passé, mais la muraille est toujours dévastée. Rien n'a changé depuis le temps de Babylone. Les portes sont brûlées, il y a des brèches partout, des trous partout. C'est la honte. Néhémie, pourquoi les portes, pourquoi les brèches ? Alors pour nous aujourd'hui, les murailles, il n'y a plus tellement de murailles dans les villes. C'était pour protéger la ville de tout envahisseur, de toute invasion. Et là, n'importe qui pouvait entrer, sortir jour et nuit. Et à l'époque, la nuit, on fermait ces grandes portes. Et en journée, on ouvrait pour que le commerce puisse se faire. Notre ville, notre belle ville sainte, est vouée à elle-même. Et le texte nous dit dans le chapitre 1er que Néhémie va perdre sa joie et il va prendre un temps de jeûne pour intercéder en faveur des habitants de Jérusalem. Lui, dans le service, est de servir la boisson, les boissons, à la table de l'empereur. Il prend à cœur. Premier point, prendre des nouvelles. Des bien-aimés qui sont au loin. Prendre des nouvelles du frère, de la sœur qui est à côté de toi. Pas juste passer. C'est vrai que la disposition de nos salles de culte fait qu'on connaît beaucoup plus souvent le dos de la sœur ou du frère que la couleur de ses yeux, n'est-ce pas ? Mais à cause de cela, justement, à la fin du culte, sœur, mon frère, comment vas-tu ? Ou si le temps a manqué, un coup de fil. Écoute, je n'ai pas eu le temps dimanche, mais il m'a semblé que par la prière que tu as prononcée, ou alors par l'absence de prière, parce qu'habituellement tu pries, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu vas bien ? Ah, merci beaucoup, mon frère, ma sœur. Et la personne va s'ouvrir, dire ce qui est au fond de son cœur, prendre des nouvelles de l'autre et de ne pas être insensible quand le Saint-Esprit t'a donné à toi le discernement. Tiens, regarde, il y a quelque chose qui semble ne pas aller. Et souvent, le Seigneur ne va pas le montrer aux anciens ou aux pasteurs, hein, mais c'est à toi qu'il a montré. Donc, ne te dis pas, oh, de toute manière, les anciens, avec leurs épouses, le pasteur et son épouse, ils verront bien. Hein, ils vont s'occuper de la sœur, du frère. Non, le Seigneur, c'est à toi qu'il a donné le discernement de voir. Et tout d'un coup, tu as ce désir, ton cœur qui bat, pour aller vers cette personne. Alors fais-le, et tu verras des grandes choses qui vont arriver grâce à ton obéissance. Nous lisons dans Job, au chapitre 6, verset 14, dans la version second 21, « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. » Et puis, une autre version un peu différente dit « Celui qui, voyant souffrir son ami, n'en a point de compassion, abandonne la crainte du Seigneur. » Donc là, l'accent n'est plus mis sur celui qui souffre, mais sur celui qui ne va pas porter l'aide. Je relis. « Celui qui, voyant souffrir son ami, n'en a point de compassion, abandonne la crainte du Seigneur. » Autrement dit, quand tu es conscient d'une situation difficile, pose-toi la question, est-ce que je peux faire quelque chose dans mes capacités? Si tu ne te poses pas cette question, ah, quel est le niveau d'amour justement dans ton cœur? Non pas pour l'autre, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre amour pour le Seigneur, il se mesure à l'amour que nous avons pour la plus petite personne qui est à côté de soi. Je redis, notre amour pour le Seigneur, il se mesure à l'amour que tu as pour la plus petite personne à côté de toi. Donc attention à l'indifférence face aux besoins de son frère, de sa sœur. Et c'est 1 Timothée 5 même qui le dit au verset 8, 1 Timothée 5, 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, et il est pire qu'un infidèle, renier la foi, donc l'amour en Dieu. » Quand tu prends des nouvelles, quand tu va t'approcher de ce que tu as discerné comme étant une situation précaire, quelle qu'elle soit, matérielle ou intérieure. Il faut considérer en quel temps le besoin se fait sentir. C'est pourquoi j'ai pris un moment pour mettre le contexte de Néhémie. C'était un temps d'exil, un temps où le peuple resté en Israël avait baisser les bras, n'ayez plus la force de reconstruire la muraille. En quel temps se trouve la personne qui est dans ce besoin? Elle te raconte, oui, ses déboires, ses difficultés, qui peuvent être terribles, mais attention. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation? Tout le cheminement. Quelles sont les conditions sociales, économiques, politique, religieuse, qui englobe cette situation. Ensuite, les temps sont-ils favorables à des changements rapides ou ça pourra prendre du temps? La réponse à ces questions va orienter le degré de ma compassion pour la situation précaire que je perçois. Autrement dit, prendre le temps comme Néhémie va le faire. Il entend les mauvaises nouvelles, qu'est-ce que fait-il? Certes, il perd sa joie, mais nous l'avons lu au verset 11 du chapitre 1er, il se met à jeûner, à prier Dieu, prier. Et il considère, et dans la prière, il va considérer toute la situation d'Israël, tout le passé, toutes les bonnes choses que Dieu a faites et ce que le peuple n'a pas fait. Deuxième point important que nous apprend cet homme Néhémie, l'Éternel console. Néhémie prend conseil pour connaître la meilleure aide à apporter à ses frères. Néhémie prend conseil pour connaître la meilleure aide à apporter à ses frères selon ses capacités. Souvenez, le roi demande à Néhémie ce qui peut être fait pour qu'il retrouve sa joie. Mais au lieu de répondre tout de suite au roi, à l'empereur, que fait-il ? L'empereur dit : Que veux-tu ? Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu ? Quand une personne d'autorité te pose une question, d'autorité, c'est du tac au tac. Tu réponds. Néhémie prend le luxe de ne pas répondre tout de suite. Il prend le luxe de ne pas répondre à l'autorité temporelle du moment. C'est son patron. Mais il s'adresse à un plus grand que ce patron. Verset 4, chapitre 2, verset 4. Il est dit : J'adressai une prière au Dieu du ciel. Et je répondis à l'empereur. J'adressai une prière au Dieu du ciel. Waouh ! À nouveau, Néhémie ne se précipite pas. Il regarde à qui est le plus important. Pourquoi ? Parce que le premier temps de prière que Néhémie a passé, il a reçu quelque chose dans son cœur. Et il le révèle au chapitre 2, verset 12. Il dit : Ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Durant le temps de jeûne, de prière, d'intercession, Néhémie a reçu une direction de Dieu précise. Raison pour laquelle, tout à l'heure, je voulais préciser dans mon témoignage de conversion que c'est Dieu qui a placé le désir dans mon cœur de le servir. Ce n'était pas de moi. C'est lui. Tout comme pour Néhémie, pareil pour Néhémie, Dieu a planté dans le cœur de Néhémie une direction. Oui, Néhémie, je vois que tu as entendu les nouvelles qui ne sont pas bonnes. Et tu as pris la peine de te mettre à genoux devant moi et de te poser la question, quoi faire ? Maintenant, alors, voici ce que je mets dans ton cœur. C'est d'aller secourir tes frères à Jérusalem. Et ensuite, il présente sa requête au roi, à l'empereur, de manière précise. Il dit, envoie-moi en Juda pour que je la rebâtisse. Néhémie, chapitre 2, verset 5. Alors, première leçon spirituelle. Dans ce deuxième point, je dis que pour secourir, il faut s'organiser. Et avant de voir comment Néhémie va s'y prendre, j'aimerais tout d'abord souligner deux leçons à retenir. La première, Néhémie n'a pas abandonné son poste sur un coup de tête. Néhémie n'a pas abandonné son poste sur un coup de tête. Parce que l'empereur lui pose la question, au verset 6. Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ? L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui fixai un délai. Il avait un métier, il avait déjà un service. Parce que très souvent, quand tu perçois un besoin, tu as le désir d'aider, mais tu es déjà en poste quelque part. Donc tu ne vas pas comme ça, du jour au lendemain, tout abandonner et hop, tu files. Combien de temps va durer si tu pars pour aider? Et je rappelle que le métier de Néhémie était goûteur des boissons du roi, qui était d'une importance capitale. Et si Néhémie n'avait pas accompli son travail correctement durant les mois et les semaines précédentes, il n'aurait pas eu la confiance du roi, de l'empereur. L'empereur n'aurait pas posé la question combien de temps. Il dit, ah oui, parle le plus longtemps possible. Parce qu'il aurait... Non, il faisait bien son travail. Très souvent, le Seigneur, il met à cœur de servir à des personnes qui sont déjà en marche. Et oui, à des personnes qui sont déjà en activité, en service. Et tu as l'impression dans l'église, mais celui-ci, celle-là, elle a plein de choses. Mais c'est parce que des gens marchent, donc le Seigneur lui donne encore. D'autres choses à faire et il la rend capable, la sœur ou le frère. Mais c'est sûr que celui qui ne fait rien, il n'aura pas de désir. Il n'aura pas de désir de faire. Donc, l'empereur ne voulait pas laisser si facilement Néhémie partir. Alors, on ne le verra pas aujourd'hui, mais vous savez combien de temps va durer son séjour finalement, parce qu'il va partir finalement. Il va durer 12 années. On ne connaît pas le délai que Néhémie a fixé. C'était sûrement pas 12 ans. Mais au fil des semaines et des mois, et la construction de la muraille a duré même pas beaucoup de temps, 52 jours. Ça a duré 52 jours. C'était rapide. Mais il va rester 12 ans et l'empereur va même donner un nouveau poste, une nouvelle charge à Néhémie, le serviteur de vin, de boisson. Il va devenir gouverneur de la région de la Judée. Et gouverneur! Avant de te lancer, ma sœur, mon frère, dans une mission de secours, si nécessaire soit-elle, il faut t'assurer que l'œuvre dans laquelle tu es déjà va être en sécurité. Entre de bonnes mains. Si l'empereur a pu laisser plus de 52 jours Néhémie au loin, c'est parce que Néhémie avait pris soin de laisser une personne de confiance aux côtés de l'empereur. Assure-toi que l'œuvre que tu laisses pour un temps est en sécurité avec des personnes fidèles qui ont les mêmes valeurs que celles que tu chéris. Exemple biblique, le bon berger laisse en sécurité les 99 brebis pour aller secourir et sauver la centième. Le texte est clair. Jésus dit dans Matthieu 18, 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a son brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes, donc en sécurité, loin de la menace des bêtes féroces, pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Jésus a mis en pratique ce principe de sécurité lorsqu'il apprit que son ami Lazare était très malade à Béthanie, en Judée. Les deux sœurs, Marthe et Marie, Vous souvenez, dans Jean 11, envoie un messager vers Jésus. Ton ami que tu aimes est très malade. Autrement dit, dépêche-toi de venir, parce qu'il risque d'y passer. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il prolonge encore de 2 jours son séjour dans la contrée où se trouve. Puis, il va à Béthanie. Il trouve Lazare qui est mort et dans le corps et déjà dans le tombeau depuis 4 jours, nous dit Jean 11, verset 39. Depuis 4 jours, son corps est dans le sépulcre. Et vous, comment vous auriez réagi? Vous vous trouvez à des kilomètres d'une situation catastrophique et c'est à vous qu'on appelle à l'aide. Parce que vous avez toutes les compétences requises pour apporter la solution. Le réflexe de nous tous, la plupart d'entre nous tous, sera de se précipiter, de courir vers le lieu de la catastrophe. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je fais quoi? Puisque j'ai les compétences. Mais Jésus ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Malgré la situation d'urgence, disons-le, de vie ou de mort, de vie ou de mort, malgré cette situation d'urgence, Jésus ne laissa pas son travail en plan. Il dit non, j'ai encore besoin de 2 jours dans cette région et de terminer ce pourquoi le Père m'a envoyé dans cette contrée. Même si la situation s'empire, tu entends dire que ça devient pire là-bas. Est-ce que tu as d'abord fini de mettre en sécurité, pas ta mission, mais mis en sécurité? Némi va retourner plus tard, après les 12 ans, reprendre d'autres services auprès de l'empereur. Même si la situation s'empire, souvent, il y a des fatigues, de l'épuisement. Notre génération, c'est la génération des burn-out. C'est comme ça qu'on dit en Belgique aussi, burn-out. Je n'ai pas l'accent, mais particulier de la région de Chapelle. Les burn-out. Parce qu'on a couru dans tous les sens. Parce qu'on est compétent. Nous tous, nous sommes compétents, on est capables d'aider. Mais est-ce que c'est toujours au bon moment? Tu ne penses pas que le Seigneur aurait pu apporter d'autres personnes et puis toi juste apporter la toute touche finale comme ces experts pompiers français qui n'ont pas eu à combattre le feu mais juste être dans des bureaux et expliquer d'autres méthodes, d'autres techniques. Ils sont rentrés chez eux, ils ne sentaient même pas la fumée, ces experts. Tu peux être dans une situation où on t'a appelé, tu ne peux même pas être sur le terrain directement. Tu rentres chez toi, tu dors comme un bébé. Mais parce que tu as des dizaines de situations dans la tête dans lesquelles c'est toi qui es en première ligne. C'est sûr que l'épuisement va arriver tôt ou tard. Ne faisons pas comme dans le monde. Hein. Je ne sais pas s'il y a des managers parmi nous ce matin. Et j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont en responsabilité dans le monde séculier. Où le patron te met des objectifs à atteindre. Allez, il faut que ce soit tel chiffre aujourd'hui. Ah, l'an passé, on a fait tel chiffre, donc ce mois-ci, on doit faire ça. Pression, 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 pression. Et tu rentres à la maison, tu as la tête comme ça. J'ai beaucoup de compassion. Mais, et le frère l'a dit tout à l'heure, le Seigneur nous donne d'être sages. Il nous donne la sagesse de mettre l'essentiel. La deuxième leçon, secourir les autres, c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour savoir ce qui est juste de faire. Se mettre à l'écoute de Dieu pour savoir ce qui est juste de faire. Cela se résume en deux mots, prier et agir. Prier et agir. Et nous avons des exemples bibliques. Barnabas et Saul, Paul, dans Acte 13, il est dit que dans cette église de Antioche, cette fameuse église où, pour la première fois, les chrétiens ont reçu le nom de chrétiens. Acte 13, verset 1, il est dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Des années auparavant, avant cet événement du Saint-Esprit qui parle à l'Église, le Seigneur s'était révélé, vous vous souvenez, à Saul sur le chemin qui mène à Damas. Et le Seigneur avait mis à part Saul pour qu'il le serve à plein temps. Mais ce n'est que plus tard, là, à Antioche, durant un temps de prière et de louange, d'adoration, que le Saint-Esprit vient maintenant confirmer ce que Jésus avait déjà annoncé. Le ministère de Paul et là de Barnabas aussi. Un autre exemple biblique, parce que c'est important de donner des exemples, que c'est possible de le vivre aussi à notre époque. Le prophète Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 13, 2 Rois, chapitre 6, 8 à 13, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans le conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mais mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, mais plusieurs fois donc. Si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi ? C'est qui fait un double jeu ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Mais personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète, qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Élisée révélait des choses qui étaient dites en cachette. Un chrétien qui prie en étudiant sa Bible va renouveler sa sagesse pratique. Un chrétien qui prie en étudiant la Bible va renouveler sa sagesse pratique. De même, une église qui médite la Bible et qui prie va multiplier son nombre de conseillers remplis de la sagesse de Dieu. Néhémie ne s'appuie pas sur ses connaissances intellectuelles pour répondre à l'empereur. Vous souvenez ? Non, il marque une pause, il consulte Dieu. Et tout le long du livre de Néhémie, vous allez voir la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. C'est pourquoi 52 jours ont suffi pour restaurer la muraille, parce qu'il y avait un homme de prière quelque part. La jeune église de Jérusalem, dans les Actes, priait et passait du temps à lire la Bible en groupe, dans les maisons. Pourquoi ? Parce qu'en petit groupe, il était plus facile de poser des questions aux prédicateurs, de prier pour les besoins et de prodiguer des conseils pratiques. Sans vie de prière et la lecture de la Bible régulière, c'est comme être aveugle et marcher en tâtonnant. La solution à un problème, elle peut être juste à côté de toi. Mais comme la personne tâtonne et ne voit pas la solution, parce qu'il n'y a pas de révélation dans la prière. Et tâtonner est un gaspillage d'énergie et de temps. Donc, autrement dit, on peut tourner, ne pas prier, c'est gaspiller du temps et de l'énergie pour trouver des solutions par soi-même. Alors, dans l'exemple de Élisée, l'arme redoutable d'Élisée, c'était quoi? C'était pas la prophétie. C'était un prophète, Élisée. Il a demandé quoi? Double onction qui était sur Élie, hein, vous vous souvenez? Mais son arme, c'était pas ça. Les conseillers de l'armée syrienne ne craignaient pas juste la notion de prophétie d'Élisée. Ils craignaient l'homme de prière. C'était ça l'arme redoutable. Autrement dit, pour tous les dons que Dieu donne, tous les ministères, nous avons tous comme base la même arme, la prière. Que tu sois enseignant, que tu sois doué de sagesse, que tu aies un don de guérison, que sais-je, doué de tes mains, la louange, la base, c'est la prière. Et l'étude de la Bible. Les deux vont ensemble. Bible et prière. Celui qui étudie la Bible, ça va le pousser à se mettre à genoux. Celui qui prie, ça va le pousser à étudier la Bible. Les deux vont toujours ensemble. Et ensuite vient la révélation. Ça, c'est le secret du chrétien et de toute église. Je termine avec deux choses. Je l'ai dit, la prière te fait gagner du temps. Ce n'est pas une perte de temps. Si la prière faisait perdre du temps, Josué, le jeune serviteur de Moïse, n'aurait pas passé du temps dans la tente de la rencontre quand Moïse quittait la tente après avoir parlé avec Dieu. Mais Josué restait pour aussi avoir son temps personnel avec le Seigneur. La prière te fait gagner du temps. Te fait gagner du temps. Et deux, prier suscite la révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est la fin. Néhémie reçoit le désir d'aller rebâtir, reconstruire les murailles. Prier va t'amener à répondre à tel ou tel besoin. Tu as des solutions que Dieu te révèle dans la prière et à plusieurs. Dieu vous donne des idées. Qui n'a pas vécu ça? Je crois, nous tous, on a vécu ça, non, dans la prière. Tu es dans la prière, tout d'un coup, tu as un tas d'idées qui viennent. Au début, c'est vrai. Ce sont des idées loufoques. Ah oui, il faut que j'aille faire les courses, j'ai oublié d'acheter le poulet. Là. Ah oulala. Ah oui, attends, il faut que. Ah, j'ai oublié tel soin. Ça, c'est normal. C'est au début de la prière. Les idées parasites. Ça passe. Donc, ne sois pas découragé quand ça arrive au début. Ne te dis pas, oh, c'est le diable qui. Non, mais c'est juste que c'est ton cerveau qui. Tout d'un coup, tu fermes les yeux et puis tu vois tel magasin, mais parce que tu viens du magasin. C'est tout à fait normal. Ça, c'est physique. Mais une fois que tout cela est passé, parce que tu as pris du temps, maintenant, avec ce que tu as lu dans la parole de Dieu, les idées de Dieu, le Saint-Esprit te parle et t'inspire. Donc, il y a quand même un prix à payer avant de se lancer pour secourir. Et le but, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que le monde, notre monde dans lequel on vit, il est dirigé par les sciences humaines. Les sciences humaines, même la Bible là que nous avons, certains l'étudient avec les sciences humaines. La psychologie, l'économie, tout ça, ok, on trouve des éléments. Mais le Saint-Esprit n'a pas utilisé les sciences humaines. C'est lui-même qui révèle. Et nous avons besoin de recevoir directement de la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ, ce que lui, il veut faire. Tu veux aider ton frère, ta sœur ? Ne te dis pas, qu'est-ce que moi je peux faire ? Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse ? C'est différent. C'est différent. Alors, en conclusion, Jacques 3 nous dit ceci. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Dont le but, quand tu vas secourir, c'est d'apporter la sagesse, la personne de Jésus, en fait. Quel que soit le service dans lequel tu es. Chaque chrétien, à un moment ou un autre, ressent le désir de se rendre utile dans l'Église ou ailleurs. Et comme on vient de le voir avec Néhémie, cet homme ordinaire, il ne s'est pas lancé tête baissée dans ce qu'il savait être pourtant juste. Mais il a attendu le feu vert du Seigneur dans la prière. Et dans la prière, le Saint-Esprit va te révéler comment être un ambassadeur de Christ, là où il t'a placé pour manifester la bienveillance de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, deux mots, s'il faut que tu retiennes deux mots, c'est prier et agir. Agir. Prions ensemble. J'aimerais prier pour les personnes qui sont dans le service et qui peuvent être comme alourdies par justement le désir d'être utile et qui se voient comme totalement envahies, ne sachant même plus ou aider. Mais pour cette première catégorie de personnes, j'aimerais prier que le Seigneur vous donne d'avoir un espace de paix. Un peu comme le Seigneur, il a dit aux disciples, aux apôtres, venez à l'écart afin de vous reposer. Que le Seigneur te mette à l'écart afin que tu aies ce cœur à cœur avec lui la parole de vie, qui renouvelle tes forces, afin que tu sois utile dans les missions qu'il t'a confiées, ma sœur, mon frère. Et dans certaines missions, il ne t'a pas envoyé. Et que tu sois, ton service, qu'il soit doux, il soit léger, et non pas lourd. Et puis, j'aimerais aussi prier pour d'autres personnes qui, ce matin, se disent « Mais c'est vrai, le Seigneur, tu m'as parlé à plusieurs reprises. Tu as mis dans mon cœur le désir. Tu as montré tel ou tel besoin. Mais j'ai laissé aller. » Alors ce matin, le Seigneur aussi, il te tend la main, il te dit « Ma fille, mon fils, si effectivement tu te rends disponible comme mon serviteur Néhémie. Même si tu te dis que tu n'es pas compétent pour telle ou telle tâche, je peux te donner. Mais si tu me fais confiance et que tu attends le feu vert. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu donnes à ton Église d'être au plus près de toi, comme Jean posait sa tête sur ta poitrine pour entendre les battements de ton cœur, comme tout à l'heure on le chantait. Seigneur, que nous soyons tous et toutes à ton écoute, afin que notre action ne soit pas un gaspillage d'énergie et de temps, mais réellement que tu fasses gagner du temps dans la prière aux uns et aux autres. Amen. Amen.